C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur François Truffaut, 1932-1984. Cinéaste, français, enfant né de père inconnu, hétérosexuel. Œuvre, 5 films, Les 400 coups, 1959, Antoine et Colette, court-métrage pour un film à sketch, 1962, Baiser volé, 1968, Domicile conjugal, 1970, L'amour en fuite, 1978. Personnage, Antoine Doinel, interprété par Jean-Pierre Léo. Antoine Doinel est un exemple manifeste de personne devenue personnage. Et il montre comment un créateur compose un bon personnage, en s'éloignant de lui. François Truffaut l'a raconté. Après avoir choisi son acteur, le tout jeune Jean-Pierre Léo, pour les 400 coups, celui-ci a apporté une telle inventivité au rôle que ce rôle, au départ un démarquage de ce que Truffaut avait vécu lui-même, que cessant d'être son ombre portée, Antoine Doinel a acquis une personnalité propre. Doinel n'est pas Truffaut, Truffaut n'est pas Doinel, Doinel n'est pas Léo, Léo n'est pas Doinel, Doinel est Doinel. Tolstoï disait du prince André de Guerre et Paix, « Comme tous les vrais personnages, il n'est personne ». On peut même le dire de ceux qui paraissent les plus proches de leurs auteurs. David Copperfield n'est pas Charles Dickens, Clarissa Dalloway n'est pas Virginia Woolf, le narrateur d'À la recherche du temps perdu n'est pas Marcel Proust. D'abord, chacun d'entre eux contient des éléments qui les éloignent radicalement de son créateur. Le narrateur d'À la recherche du temps perdu n'est-il pas hétérosexuel, par exemple? Les créateurs conscients ont de l'imagination une idée un peu plus élevée que « c'est mon miroir ». Il y a une popularité de Truffaut qui confine parfois au chauvinisme. C'est notre cinéaste de la Nouvelle Vague, il est connu à l'étranger, preuve de la supériorité du goût français. Évidemment, Truffaut n'y est pour rien. Évidemment, aucune popularité n'est usurpée. La popularité est parfois entachée d'un élément légèrement commun. Et dans Truffaut, en particulier ce personnage de Doinel, il y a par moments quelque chose d'un peu concentré sur la gaudriole qui le rattache à la comédie de mœurs bien française, les maris, les amants, les cocus, et cela a contribué sans doute au chauvinisme. Tout de même, Doinel n'est pas qu'un petit jeune homme qui pense qu'à coucher avec des filles. Il a un idéal élevé, lequel n'appartient pas moins à Truffaut, il adore les livres, jusqu'à devenir romancier. On voit dans L'amour en fuite son roman sous la couverture si reconnaissable du Flammarion d'alors. Par ce qu'il en révèle dans le film, Truffaut montre d'ailleurs que pour lui, un personnage est une transformation. Ce que Doinel semble raconter de lui-même dans Les Salades de l'amour, le titre de son roman, n'est pas ce qu'il a vécu. Doinel n'est pas Doinel, tout est logique. Dans Les 400 coups, Doinel enfant avait dressé un hôtel à Balzac pour qu'il l'aide à avoir une bonne note en français, mais dans sa dissertation, il a recopié une phrase de La recherche de l'absolu et s'est fait pincer. Baiser volé commence dans une prison militaire où Doinel lit Le Lys dans la vallée. Qu'est-ce qu'il peut bien aimer de ce roman de Balzac? Que Félix de Vandenesse ait eu une enfance malheureuse? Il n'était pas tellement malheureux enfant. Qu'il ait une histoire d'amour platonique avec la duchesse de Mortsauf, Antoine couche beaucoup. Que cela se passe dans un château en Indre-et-Loire, il n'y a pas plus parisien qu'Antoine Doinel. Les bons lecteurs n'aiment pas les livres pour ceux qui leur ressemblent. Ils les aiment parce qu'ils les trouvent bien écrits. Et si j'aime la série des Doinel malgré son aspect gaudriole, c'est parce que Truffaut a bien du talent. Qui est Antoine Doinel? Pour en parler, je reçois Vincent Amiel, critique à Positif et auteur de Naissance d'image chez Klinksic. Vincent Amiel, à quoi ressemble Antoine Doinel, je veux dire au fur et à mesure de ses rôles?
C'est un jeune homme, on pourrait dire qu'au fur et à mesure de ses rôles, et quel que soit son âge, c'est un jeune homme, comme si on prenait l'expression comme un tout fini, comme Melville au début de Bob le Flambeur parle d'un de ses personnages en disant « c'est un éternel jeune homme ». Doinel, c'est la même chose, je pense que si on l'avait vu à 60 ou 80 ans, on en dirait la même chose, ça c'est une chose. Il n'est pas très grand, il est brun, et comme vous venez de le dire ou de le suggérer, il ressemble physiquement très fortement à Jean-Pierre Léo et à François Truffaut, puisque dans le rapprochement que vous venez de faire, il y a en plus un rapprochement physique étonnant. Alors, non que leurs traits soient absolument similaires, mais on pourrait dire qu'ils ont tous les trois une intonation commune, une intonation dans la voix, mais aussi si vous me permettez, dire une intonation corporelle. Ils ont une gestuelle, une façon de parler, une façon de s'adresser aux autres, qui leur est une façon d'ailleurs de phraser leur dialogue, qui n'appartient qu'à eux, mais qui leur est commune. Et en particulier, il y a une gestuelle d'Antoine Doinel qui est assez curieuse. Lui qui est timide, qui est maladroit, il se sert beaucoup de ses mains, à la fois pour s'approcher des autres et en même temps en ayant au dernier moment une réserve. C'est le noli me tangere. Il s'approche, il touche et en même temps surtout il faut pas toucher. Mais donc tout ça leur est commun et je crois qu'ils n'en changent pas beaucoup de 59 à 79 le temps que nous le connaissons.
Alors il y a une des premières scènes des 400 coups qui est donc le premier film où il est enfant. Il a 11 ou 12 ans, quelque chose comme ça, est très stupéfiante. Le jeune Doinel fait un graffiti au mur et son prof lui dit, et je le cite, « Je vois que nous avons un juvénal en classe, mais vous êtes incapable de faire la différence entre un hexamètre et un alexandrin. » Et ce qui me frappe, c'est qu'en 1958, on pouvait parler de juvénal et d'hexamètre à une classe d'enfants de 11 ans.
Et à des spectateurs, et à des spectateurs de cinéma à la fin des années 50, effectivement. Alors, c'est vrai que ça caractérise le personnage et toute sa vie, et toute la vie à laquelle nous assistons, c'est qu'il fait partie d'un milieu populaire. Il habite aux alentours de la place Clichy. Il va, de studio en studio, mais plutôt de chambre de bonne en chambre de bonne. Mais il a ce que Bourdieu appellerait un capital culturel, comme Truffaut d'ailleurs. Et ça, c'est effectivement extrêmement important, et ça le marque et ça le suit tout au long de sa vie.
Dans les 400 coups, ce qui me paraît le plus frais et qui fait d'ailleurs, nous en parlerons peut-être, que Truffaut n'est pour moi pas un cinéaste réaliste, c'est qu'il n'y a pas de psychologie. C'est-à-dire que Doinel fait des bêtises, mais on ne nous dit pas c'est parce que sa mère trompe son mari. Les choses sont ce qu'elles sont.
Oui, oui. Et non seulement il n'y a pas de psychologie de manière implicite, mais Truffaut se moque des psychologues dans les dernières scènes et dans cette fameuse, très fameuse séquence où Antoine Doinel est face à la caméra et répond à une psychologue qu'on ne voit absolument jamais. Et surtout, l'affaire est assez connue, Truffaut avait tourné le film en partie en pensant à ce film qu'il avait détesté, qui était Chien perdu sans collier, l'adaptation du roman de Cesbron, qui lui était un roman et un film extrêmement psychologisant.
Et moralisateur.
Et, oui.
Et pourtant, dans ce film, nous sommes toujours dans les 400 coups, sa mère a une phrase pour moi atroce de manipulation. Elle lui dit « Il faut toujours obéir à sa mère, nous pouvons avoir des petits secrets tous les deux ». Et comme Doinel n'est sûrement pas sentimental et qu'il est très malin, il ne se laisse pas avoir.
Non, en effet, mais je crois que c'est... Il se fait rarement avoir par l'institution et par ce qu'on pourrait appeler le monde adulte, en effet.
Je disais que Truffaut ne me paraissait pas réaliste. Dans les 400 coups, il y a une scène assez longue qui me paraît, peut-être que je me trompe, mais assez René Clair, qui est le petit Doinel volant une machine à écrire, qui devient presque un personnage et qui promène avec son copain et dont il ne peut rien faire.
Oui, et alors c'est assez étrange parce que c'est ça le péché absolu du film, c'est qu'il soit allé voler une machine à écrire. Quand on y pense aujourd'hui, effectivement, on se dit que là aussi, les mœurs sont bien changées et que ce crime extraordinaire d'avoir volé... Sauf que, bien sûr, la machine à écrire, elle est symbolique pour Truffaut, elle est symbolique pour Doinel et elle est peut-être symbolique, effectivement, pour le monde qui l'entoure et qui le voit voler de ses propres ailes avec cette machine à écrire.
Un joli détail de l'histoire du film est que Cocteau, qui était président du Festival de Cannes, a été toute bienveillance envers Truffaut et lui a remis le prix de la mise en scène pour ses 400 coups. Et après tout, il était l'auteur des Enfants terribles et d'une certaine façon, Doinel en est un. Et d'ailleurs, l'année suivante, ce qui est assez joli, c'est que ne trouvant pas d'argent pour finir le testament d'Orphée, c'est Truffaut qui en a prêté à Cocteau.
Oui. Ils ont eu des relations effectivement très, très fortes à ce moment-là et des relations artistiques sans doute très enrichissantes mutuellement.
Alors, vous disiez au début de l'émission que Léo était un jeune homme, et donc le petit garçon à presque gros derrière des 400 coups devient ce petit jeune homme nerveux et qui a pour moi une espèce de comique enfantine, et je trouve dans Léo une part de presque de génie comique à la Chaplin.
C'est d'ailleurs étonnant de revoir les films aujourd'hui où, bon, 50 pour Baiser volé, donc en 68, 50 ans ont passé. Donc, ce ne sont plus des films datés. Ils sont assez loin pour être loin. Et on s'aperçoit effectivement des ressorts comiques, enfin, où on confirme les ressorts comiques de ces films et de Léo en particulier, qui est effectivement, on l'a pris pour un grand naturaliste, pour quelqu'un qui jouait ce qu'il était dans la vie ou ce que pouvait être Truffaut. En fait, c'est effectivement un très grand acteur.
Ouais. Alors, son premier amour est joué par Colette, qu'interprète Marie-France Pizier dans peut-être le moins connu de la série, qui est le court-métrage Antoine et Colette. Ouais. Et alors, il y a une scène, nous y reviendrons après, où on voit Léo déménager dans un hôtel pour se trouver en face de chez elle. Mais c'est une histoire qui prête pas à conséquence, quoi. C'est une petite histoire d'amour entre les deux. Le moment important, c'est Baiser volé, où, sortant de la prison militaire, où d'ailleurs il était en train de lire la chaste histoire d'Ulysse dans la vallée, il va aux putes. Et ça, c'est une grande occupation de Doinel.
Oui, quand vous disiez tout à l'heure qu'il couchait beaucoup, je ne suis qu'à moitié d'accord parce que effectivement, il essaye de séduire beaucoup. Il y arrive de temps en temps. Mais je crois que le bordel dans lequel il va, les prostituées qu'il rencontre, sont précisément là pour montrer qu'il ne couche pas forcément beaucoup à gauche et à droite. Hein. C'est-à-dire que, si j'ose dire, quand il couche professionnellement. Mais oui.
Écoutez, la scène du bordel, il y va, il s'entend pas avec la pute, il descend dans l'escalier. Puis quand même, il en trouve une autre et il monte avec
celle-là.
Voilà,
c'est ça. Oui. Mais ça faisait partie de l'univers de Truffaut, effectivement.
Hein. Ah oui.
L'univers mythique, presque, hein, culturel des bordels, des prostituées, on en voit dans beaucoup de ses films.
Alors, il y a une chose très Doinel, me semble-t-il, c'est qu'au début du film, quand il se fait réprimander par un officier qui le chasse de l'armée, puisqu'il s'était engagé pour 3 ans, et pendant toute la scène où il se fait engueuler par l'officier, il sourit. Et plus tard dans le film, quand Madame Tabar, qui est jouée célèbrement par Delphine Seyrig, lui fait sa scène aussi, lui est dans son lit, il sourit tout le temps. Et un des trucs de Doinel, c'est il sourit quand on l'engueule.
Oui, il sourit. Alors, il a ce sourire ironique, mais qui même se transforme en grimace. Hein. Devant l'officier, il a des mimiques assez étonnantes. Et Truffaut les souligne. C'est-à-dire, c'est assez étonnant, Truffaut, qui a un découpage très classique, prend du temps pour faire des plans sur les grimaces de Léo. Alors que ça ne va pas dans le sens de ce que fait Truffaut la plupart du temps. Il n'aime pas dramatiser à l'ancienne, il n'aime pas que les acteurs expriment directement leurs sentiments. Mais on voit bien que ce qui lui plaît là, c'est effectivement presque cet aparté que constitue la mimique de Léo.
Alors, si Doinel s'était engagé, c'était à cause de la littérature, il le dit, il avoue qu'il avait lu « Servitude et grandeur militaire » de Vigny et que ça l'avait exalté. Doinel, c'est quelqu'un qui vit dans l'imagination.
Absolument, qui vit dans l'idéal, on pourrait dire, hein, absolument constamment. D'où ses problèmes, puisque effectivement, il se heurte à des femmes, à des armées, à des officiers qui, eux, ne sont pas dans l'idéal. Donc, oui, tout à fait. Tout le personnage de Doinel, c'est le choc entre l'idéal, on pourrait presque dire romantique, hein, on parlait du Lys dans la vallée, et de ce qu'il rencontre, effectivement.
Et d'ailleurs, il a une chose quand il courtise Christine, qui est jouée par Claude Jade et qui deviendra sa femme, c'est qu'il lui écrit, et il y a même un moment où elle lui dit « je n'en peux plus », il lui a écrit 19 lettres dans une semaine.
Oui, absolument, oui. Et oui, parce que le romantisme chez Doinel passe par l'écriture, et comme chez Truffaut, hein, on sait que les cinéastes de la Nouvelle Vague étaient d'abord des admirateurs de la littérature et Doinel de la même manière.
Alors, une chose me frappe, c'est que Doinel n'a aucune conscience politique. Dans Domicile conjugal, à un moment dans la conversation, il dit le général machin et son interlocuteur lui dit le maréchal Juin. Et Doinel répond non, celui qui dirigeait la France pendant la guerre. Ce qui est assez amusant. Je dois dire qu'au passage, c'était pas du tout le cas de Truffaut, dont on sait qu'il avait écrit des lettres d'admiration à Rebattet, l'écrivain collabo qui était aussi un critique de cinéma. Donc, qu'est-ce que veut dire Truffaut en faisant ça?
Je pense que Truffaut lui-même avait des positions politiques assez, changeantes serait péjoratif, mais liées au moment, disons.
Ah oui.
Effectivement, il y a ses lettres à rebattre. On sait qu'à un moment donné, il distribue la cause du peuple et il se fait arrêter en même temps, pendant quelques heures en même temps que Sartre. Enfin, donc on ne peut pas dire que la conscience politique soit un des fondements de la pensée de Truffaut et du coup de ses personnages. Donc je crois qu'effectivement, c'est assez volontaire et assez conscient de sa part de ne donner aucune conscience politique à Doinel.
Il y a des éléments, pour en revenir sur ce réalisme ou ce non-réalisme de Truffaut, que moi je trouve charmant, par exemple dans « Domicile conjugal » où Madame Tabar, dont il est amoureux, c'est donc Delphine Seyrig, c'est la femme d'un marchand de chaussures, pardon, et elle est servie par des domestiques en livrée, ce qui me paraît très extravagant pour une marchande de chaussures. Et dans Domicile conjugal, Doinel offre à Christine un tableau de Balthus, oui, lequel coûtait une fortune.
Alors peut-être moins à l'époque, mais effectivement le petit Balthus, oui, on est quand même en 70-71. Alors ça fait, oui, ça fait partie sans doute du caractère un peu irréaliste de Truffaut.
Mais je dis ça tout à fait à son avantage.
Bien sûr, c'est plus intéressant que s'il lui offrait une croûte.
Alors il y a une scène après toutes ces histoires de femmes bien connues où on voit Jean-Pierre Léaud, donc Doinel, répéter devant un miroir, Fabienne Tabar, puis Christine Darbon, puis à nouveau Tabar, puis enfin Doinel, il dit Antoine Doinel. Et ça, je me demande si c'est pas le seul moment peut-être de toute la série où il y a un numéro d'acteur.
Oui, parce que Léo est en face d'un miroir et parce que ça vous paraît artificiel.
Ça me paraît un peu forcé. Ça me paraît un peu une idée de l'acteur qui dit au metteur en scène, tiens, je vais tenter ça. Non?
Oui, c'est possible, oui.
Parce que je n'en vois pas bien le sens.
Mais en même temps, c'est une réplique une scène qui est célébrissime aujourd'hui, non pas pour le jeu de Léo, mais justement pour ce caractère obsessionnel et cette recherche d'identité d'une certaine manière par le verbe totalement irrationnel, on est bien d'accord, mais cette manière de répéter son propre nom et de le répéter face au miroir, vous savez, c'est ce que Scorsese fera avec De Niro dans Taxi Driver pas très longtemps après, enfin 6-7 ans après, et sans doute très consciemment, cette manière de se poser comme personnage face à un miroir. Je crois que il y a un fondement dramaturgique derrière.
Est-ce que ça voudrait dire que puisqu'après tout, il prononce plusieurs fois les personnages des femmes qu'il aime et qu'à la fin ça finit par lui, ça veut dire qu'à la fin Truffaut vous nous montrez que c'est un narcisse?
Non, qu'il cherche à se poser par rapport aux deux autres et qu'il est en train d'essayer de choisir et comment lui, Antoine Doinel, en définitive, se pose. Et il le fait presque de manière sonore, hein, c'est-à-dire quel est le verbe qui ira le mieux, enfin quel est le mot qui ira le mieux avec les autres.
Alors le dernier film de la série, c'est L'amour en fuite, que je trouve loin d'être le meilleur, mais je n'insisterai pas parce que je crois que Truffaut lui-même l'a dit et ne l'aimait pas beaucoup. Il a un petit côté compilation de vieux tubes où Truffaut s'autocite. Et il me semble que ce qui ne va pas dans ce film où Doinel a vieilli, c'est la continuation de la séduction avec un héros qui précisément a vieilli. C'est-à-dire qu'on sent que le pas ultime, ça serait que Doinel devienne Don Juan, et pour moi, il n'est pas assez vulgaire pour devenir Don Juan. Et c'est pour ça que ça ne marche pas.
Ah oui, ça, il me semble, moi, assez éloigné de Don Juan tel qu'on le connaît, tel qu'on le laisse dans L'amour en fuite, en effet. Mais je crois que L'amour en fuite, c'est un film très théorique, en définitive. C'est-à-dire, c'est un film qui est fait pour clore la série, et dont tous les composants sont des éléments de clôture. C'est-à-dire qu'effectivement, il a écrit un livre, il en écrit un autre, il a une photo qu'il déchire et qu'il recompose. C'est le film qui essaye de donner une logique à tout le reste. Alors évidemment, du coup, il n'est plus dans la logique de l'éparpillement, du papillonnement d'Antoine Doinel. Et d'où le caractère assez étrange de ce Doinel de L'amour en fuite. Mais en même temps, on pourrait dire cinématographiquement, c'est une tentative qui est très intéressante.
Est-ce que précisément l'idée, vous avez prononcé le mot, l'idée c'est le papillon, c'est-à-dire que c'est un film qui nous montre que Doinel est un papillon et que les papillons ne peuvent pas vieillir?
Oui, qu'ils ne peuvent vieillir qu'autrement, c'est-à-dire à partir du moment où on essaye de ramasser leurs instants. Et c'est ce que fait Truffaut à longueur de temps, ce qu'il fait avec L'homme qui aimait les femmes, ce qu'il fait avec ses propres films, ce qu'il a essayé de faire à la fin de sa vie en essayant d'écrire une autobiographie à 50 ans. À la fois, il éparpille des moments, il éparpille des actions, il éparpille des personnages ou des partenaires, et en même temps, il éprouve à un moment donné le besoin de les rassembler.
Nous allons entendre un extrait de Domicile conjugal qui date donc de 1970 et c'est bien entendu Antoine Doinel qui parle.
Fais voir. Ah, disons que ça te va drôlement bien les lunettes, je trouve.
Ah oui, bah tu sais, j'aimerais mieux m'en passer.
Ah si, ça te va très très bien. Bon, bah je vais filmer.
Je sais pourquoi tu m'as dit ça à propos des lunettes. Elle en portait, hein.
Qui ça?
Eh ben, la fille des jeunesses musicales.
Pas du tout, elle portait pas de lunettes.
Ah bon, je croyais.
Non.
Elle t'a fait souffrir, hein?
Oh là là, ça tu peux dire qu'elle m'en a fait baver des ronds de chapeau, alors. Mais quand j'y repense maintenant, mais quel cauchemar c'était. Mais alors tu vois, elle, vraiment, j'ai cessé de l'aimer d'une heure à l'autre. À 8h du soir, j'étais amoureux fou d'elle. À 9h le même soir, elle me sortait par les trous de nez. C'était fini, j'étais guéri.
Je suis sûre qu'elle a eu le malheur de dire quelque chose qui t'a déplu.
Exactement. Je me souviens plus quoi, d'ailleurs. Enfin, j'étais bien content après. Dis donc, si je te demande quelque chose, est-ce que tu me répondras oui?
Ça dépend.
Ah, tu commences à chipoter déjà. Est-ce que tu me répondras oui?
Ça dépend, dis toujours.
Est-ce que tu veux m'y remettre tes lunettes?
Vincent Amiel, il n'y a pas plus parisien qu'Antoine Doinel. On l'a un peu évoqué dans la première partie de ce personnage en personne. Et c'est un parisien d'un Paris très circonscrit. En gros, c'est Montmartre.
Oui, c'est la rive droite. On a beaucoup dit que Truffaut et les Cahiers du cinéma, c'était une culture rive droite.
Où étaient d'ailleurs les Cahiers du cinéma?
Ils étaient à côté des Champs-Élysées et surtout les cinéastes de la Nouvelle Vague habitaient rive droite et ils se distinguaient d'autres cinéastes qui leur étaient contemporains, qui étaient Alain René, Agnès Varda, Jacques Demy, qui eux étaient rive gauche, Chris Marker, qui eux étaient rive gauche. Et on a souvent distingué ces deux groupes avec la nouvelle vague pure et dure qui est sur la rive droite et le groupe rive gauche.
Godard était où?
Rive droite.
Oui, oui. Truffaut habitait lui-même Montmartre?
Et Truffaut, alors...
Où il a choisi Montmartre parce que c'était pittoresque.
Non, il habitait par là.
Il y a quelque chose de, pour moi, presque aberrant dans la vie d'Antoine Doinel, c'est qu'il a un fils, alors que lui-même n'est pas fait pour être père. Pour moi, c'est un fils perpétuel, non?
Oui, d'ailleurs, on ne peut pas dire qu'il s'en occupe beaucoup
non,
dans les films.
Il s'appelle Alphonse.
Oui, Alphonse, au contraire, les rares scènes dans lesquelles il figure, le père est en retard, mais vous avez raison, Antoine Doinel n'est pas un père. Alors, je ne sais pas s'il est un fils pour autant, parce que...
C'est vrai qu'il est en conflit avec l'autorité.
Voilà, c'est plutôt un adolescent, c'est-à-dire précisément ce personnage qui...
Un papillon.
Qui s'est soit libéré, soit détaché de ses liens.
Et d'ailleurs, quand l'enfant naît, il dit « Alphonse sera écrivain » et puis c'est lui qu'il devient. Et d'ailleurs, Antoine Doinel est peut-être le plus littéraire de tous les personnages du cinéma. On dirait même que sa destinée est de devenir écrivain. Il publie en particulier les Salades de l'amour. D'après ce qui lui est arrivé, et à son avantage, ce qui est assez amusant, on disait tout à l'heure que dans Antoine et Colette, il déménageait pour être près de Colette, et dans le roman, c'est le contraire qu'il raconte pour être mis à son avantage.
Voilà, oui, il raconte que la fille est venue s'installer en face de chez lui, alors que évidemment c'était l'inverse. Non seulement il écrit les Salades de l'amour, mais il prépare un roman, un ouvrage de fiction qu'il doit appeler le manuscrit trouvé par un sale gosse, qui est évidemment une allusion au manuscrit trouvé à Saragosse, mais qui en même temps, d'une certaine manière, le met au milieu du titre.
Il me semble que peut-être ce que Truffaut n'a pas vu ou voulu voir dans L'amour en fuite, c'est que il fallait peut-être interrompre la série des histoires d'amour de Doinel pour en faire un écrivain total, c'est-à-dire un enfermé ou du moins quelqu'un dont le conflit entre la littérature et les sexualités s'exprimerait plus fortement parce que c'est deux grandes mangeuses de temps.
Oui, alors ça c'est ce qu'il fait Par exemple, dans Les Deux Anglaises et le Continent, sans doute. Hein. C'est-à-dire que le personnage que joue Jean-Pierre Léaud dans Les Deux Anglaises est effectivement dans cette tension, dans une solitude qui n'est pas celle d'Antoine Doinel. Mais je crois que s'il ne peut pas faire ça, c'est parce que tous les films autour d'Antoine Doinel sont des comédies. Et sont des films dans lesquels Truffaut évite la tonalité dramatique. Et du coup, il ne peut pas en faire un personnage de ce genre.
En effet. Il y a un personnage de Truffaut que j'aurais bien aimé que Doinel rencontre, c'est Bertrand Morane, celui que joue admirablement aussi Charles Denner dans L'homme qui aimait les femmes. C'est un autre petit nerveux. Mais lui, il est pourri d'angoisse. Et là, je me demande si ce n'est pas une qualité apportée par Denner et la co-scénariste Suzanne Schiffman qui était juive.
L'angoisse.
Oui.
Oui, effectivement, que n'a pas Doinel du tout. Et que sans doute avait Léo. C'est là où c'est peut-être un peu étrange. C'est que, enfin, en tout cas, quand on voit la carrière qu'a été celle de Jean-Pierre Léo et pendant les Doinel et après, et ne parlons pas d'après la mort de Truffaut, c'est une carrière qui est pétrie d'angoisse, qui est chaotique et qui est liée à cette angoisse. Oui. Donc c'est assez étonnant parce que, comme vous le disiez, le personnage de Doinel doit énormément à Léo, mais Truffaut en a gommé cette dimension, en effet.
Alors Truffaut a réalisé donc L'homme qui aimait les femmes, et on pourrait peut-être écrire sa biographie sous le titre L'homme qui aimait les livres, vous l'avez vous-même évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que non seulement Antoine lit et écrit, mais on le voit lire avec Christine dans leur lit conjugal. Dans une scène de L'homme qui aimait les femmes, on voit le héros préférer la lecture d'un roman à la femme qu'il avait séduit la veille. Et dans La peau douce, le personnage joué par Jean de Sailly est un écrivain à succès, directeur de revue et spécialiste de Balzac.
Oui, et qui fait des conférences sur Balzac et l'argent. Oui, la littérature, je crois, ça a été la grande chose de Truffaut, entre autres. Et je crois que la grande qualité de Truffaut, c'était d'être un raconteur d'histoire, ou en tout cas quelqu'un qui se souciait avant tout de la manière dont il racontait des histoires. Et si on l'a souvent attaqué en disant que après ses positions très virulentes de critique, il était revenu vers un cinéma beaucoup plus académique et beaucoup plus conventionnel, s'il a conservé un certain aspect provocateur ou novateur tout simplement, ou moderne, c'est précisément dans la construction de ces récits, avec des fulgurances, en utilisant par exemple la narration épistolaire, avec une voix off qui revient très très souvent dans ses films, avec une manière. Truffaut a quand même travaillé avec le grand monteur novateur en France, qui est Yann Dedé, qui a été le monteur de Piala. Je veux dire, ça montre un souci pour la construction des récits et pour la manière dont les récits sont faits, qui sans doute vient de la littérature. Et Truffaut, qui a tellement tapé sur les scénarios et sur les scénaristes, était en fait quelqu'un qui se souciait énormément de la manière dont le récit était construit.
Sûrement, mais ça n'est pas de la narration classique et simple. C'est pas il partir, et c'est pas du Christian Jacques, malgré ce qu'on pourrait dire.
Ah oui,
non. C'est de la construction peut-être littéraire, mais pourquoi dirait-on littéraire, c'est du cinéma, mais ce n'est pas du tout de la narration classique.
Non, c'est une façon de travailler à des narrations singulières, en effet, au contraire, hein, avec des accélérations très brusques, avec des ellipses extraordinaires. Et Doinel, la série des Doinel est tout à fait représentative de cette façon de raconter par des petits fragments, par des petites scènes, de manière sans articuler avec des relations de cause à effet, sans donner toujours des éléments chronologiques très nets. Et effectivement, ça c'est sans doute l'aspect le plus, sinon moderne, en tout cas contemporain de ces films de Truffaut. Oui.
Vincent Amiel, que vous a appris le personnage d'Antoine Doinel?
Alors, il m'a appris deux choses. Il m'a appris, pour un jeune homme de 20 ans qui regardait ses films, il m'a appris qu'un homme timide, fragile et maladroit pouvait à la fois vivre et plaire, ce qui n'est pas rien. Et puis il m'a appris à écrire sur le cinéma, puisque mon premier texte universitaire est un texte sur la série des Doinel, qui est paru dans un hommage à Truffaut en Italie, et ensuite c'est transformé en une thèse. Et si je fais le métier que je fais aujourd'hui, c'est sans doute grâce à Antoine Doinel.
C'était Personnage en personne, le 71e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Vic Mackey, créé par Sean Ryan dans The Shield.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de production Pascaline Monet, prise de son Éric Boisset. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.